Chapitre 7. Le 15 janvier suivant, c'est-à-dire 2 mois et demi après les événements que je viens de rapporter, eut lieu le procès de M. Darzac. La lecture de l'acte d'accusation s'accomplit comme presque toujours sans incident. Je ne raconterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac. Il répondit à la fois de la façon la plus naturelle et la plus mystérieuse. Tout ce qu'il pouvait dire parut naturel. Tout ce qu'il tut parut terrible pour lui, même aux yeux de ceux qui sentaient son innocence. Frédéric Larsan fut introduit. Il s'expliqua fort nettement et tout ce qu'il dit accusait fortement M. Darzac. Tout à coup, du fond du public debout, une voix jeune s'éleva qui dit « Je ne partage pas du tout l'avis de Frédéric Larsan !» Tout le monde se retourna. Le président demanda avec irritation qui avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'intrus. Mais on entendit à nouveau la même voix qui disait « C'est moi, monsieur le président! C'est moi, Joseph Rouletabille !» Il y eut un remous terrible. Tout le monde voulait voir Joseph Rouletabille. Le président cria qu'il allait faire évacuer la salle, mais personne ne l'entendit. Pendant ce temps, Rouletabille se faisait un chemin à grands coups de coude et parvint jusqu'à la barre des témoins. Et il dit « Je demande pardon, monsieur le président, le bateau a eu du retard. J'arrive d'Amérique. Je suis Joseph Rouletabille. » On éclata de rire. Tout le monde était heureux de l'arrivée du jeune homme. Mais le président était furieux. « Ah, vous êtes Joseph Rouletabille !» dit-il. « Eh bien, je vais vous apprendre à vous moquer de la justice !» Mais Maître Henri Robert, l'avocat de M. Robert Darzac, intervint. Il commença par excuser le jeune homme et fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui, il le savait, prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. « Vous allez nous dire le nom de l'assassin ?» demanda le président, sceptique. « Mais, mon président, je ne suis venu que pour ça !» dit Rouletabille. « Je vous écoute !» dit le président d'un ton sec. Rouletabille fouilla tranquillement dans sa poche, en tira une énorme montre, y regarda l'heure et dit « Monsieur le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Nous avons encore 4 bonnes heures devant nous. » « Cette plaisanterie a assez duré, » dit le président. « Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. » Rouletabille protesta. « Je vous affirme, monsieur le président, » dit-il, « que je vais vous dire le nom de l'assassin. »« Parfait !» fit le président irrité. « Nous vous attendons à 6h30. » En attendant, laissez-nous poursuivre tranquillement ce procès. Quand 6h30 sonnèrent, Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit.
Voyons, fit le président. Il est 6h35, monsieur Rouletabille, et nous ne savons encore rien. Parlez, dites-nous quel est le nom de l'assassin.
Il y eut un court silence, puis Rouletabille dit d'une voix triomphante,
Frédéric Larsan.
Et, se retournant vers le public, qui faisait déjà entendre des protestations, il lui lança ces mots avec une force incroyable.
Frédéric Larsan, l'assassin !
Une clameur où s'exprimait la consternation, l'indignation et l'incrédulité remplit la salle. Le président n'essaya même pas de la calmer. Cependant, on entendit distinctement Robert Darzac, qui, se laissant retomber sur son banc, disait
« C'est impossible, il est fou !»
Le président
« Vous osez, monsieur, accuser Frédéric Larsan ? Voyez l'effet d'une pareille accusation. Monsieur Robert Darzac, lui-même, vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. »
« Des preuves, monsieur ? Vous voulez des preuves ? Ah, je vais vous en donner une de preuve !»
dit Rouletabille d'une voix aiguë.
« Qu'on fasse venir Frédéric Larsan !»
Le président.
Huissier, appelez Frédéric Larsan.
L'huissier courut à la petite porte, l'ouvrit, disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient sur cette porte. L'huissier réapparut et dit
Monsieur le Président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers 4 heures et on ne l'a plus revu. »
Rouletabille cria triomphant.
« Ma preuve ! La voilà ! »
« Expliquez-vous ! Quelle preuve ?»
demanda le président.
« Ma preuve irréfutable !»
fit le jeune reporter.
« Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larsan ? Je vous jure que vous ne le reverrez plus !»«
Si vous ne vous moquez pas de la justice !»«
Pourquoi, monsieur ? N'avez-vous pas profité de ce que Larsan était ici pour l'accuser en face ? Au moins, il aurait pu vous répondre !»
« J'accuse Larsan d'être l'assassin et il se sauve. Vous trouvez que ce n'est pas une réponse, ça ?»«
Nous ne croyons pas que Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Il ne savait pas que vous alliez l'accuser. »«
Si, monsieur, il le savait, puisque je le lui ai appris moi-même, tout à l'heure. »«
Vous avez fait cela ? Vous croyez que Larsan est l'assassin et vous lui donnez les moyens de fuir ?»«
Oui, monsieur le président, j'ai fait cela. »
répliqua Rouletabille avec orgueil.
« Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un simple journaliste, et mon métier n'est pas de faire arrêter les gens. Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan. Il est trop malin. S'il est moins fort que moi, il est plus fort que toutes les polices de la Terre. Cet homme qui, depuis 4 ans, s'est introduit à la Sûreté, et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larsan, est autrement célèbre sous un autre nom, que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, monsieur le président, c'est Ballmeyer.
Ballmeyer ?
S'écria le président.
Ballmeyer ?
Fit Robert Darzac en se soulevant.
Ballmeyer ! C'était donc vrai ?
Ha ha, monsieur Darzac ! Vous ne croyez plus que je suis fou maintenant.
Ballmeyer, Ballmeyer. On n'entendait plus que ce nom dans la salle.
Le président suspendit l'audience, et avec raison, car l'émotion était grande.
Ballmeyer, ce criminel dont on entendait parler depuis 20 ans et que l'on croyait mort, était donc bien vivant. Et c'était lui qui avait tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson. Mais pourquoi ?
Quand l'audience reprit, Rouletabille fut immédiatement rappelé à la barre.
« Mais qu'est-ce que Larsan ? » lui demanda le président. « Venait faire dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-il tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson ?»«
Parce qu'il l'adorait, monsieur le président. Il était amoureux fou. Et à cause de cela et de bien d'autres choses, il était capable de tous les crimes. »
« Mademoiselle Stangerson le savait ? » ?»«
Oui, monsieur. » Mais elle ignorait naturellement que celui qui la poursuivait ainsi était Frédéric Larsan.
« Et vous, monsieur Darzac ?» demanda le président. « Vous saviez quelque chose à ce sujet ? Pourquoi Mademoiselle Stangerson n'a jamais parlé à personne de cet homme qui la poursuivait ? Cela aurait aidé la justice et aurait évité de vous accuser. »
« Mademoiselle Stangerson ne m'a rien dit, » répondit monsieur Darzac.
« Monsieur Rouletabille, » demanda le président, « comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre fermée de Mademoiselle Stangerson ?»«
Il est facile de répondre à cette question. Larsan Ballmeyer, qui était bien décidé à empêcher le mariage de Mademoiselle Stangerson avec Monsieur Darzac, l'espionnait continuellement. Un jour, il les suit tous les deux dans les grands magasins de la Louve et s'empare du réticule. Il trouve la clé et comprend, en lisant l'annonce dans les journaux, que c'est quelque chose d'important. Il écrit à Mademoiselle Stangerson, poste restante. Il demande sans doute un rendez-vous en faisant savoir que celui qui a le réticule et la clé est celui qui la poursuit de son amour. Il ne reçoit pas de réponse, donc pas de rendez-vous. Eh bien, puisque Mademoiselle Stangerson ne vient pas à lui, il ira à elle. Depuis longtemps, son plan est fait. Il sait tout sur le glandier. Un après-midi, alors que Monsieur et Mademoiselle Stangerson viennent de sortir faire une promenade, il entre dans le pavillon par une fenêtre du couloir. Il va dans le laboratoire, essaye la clé dans la serrure de différents meubles et parvient ainsi à ouvrir l'armoire des papiers. Il vole les papiers, cela peut toujours servir à un petit chantage, et décide d'en finir avec Mademoiselle Stangerson. Nous arrivons à l'explication du mystère de la chambre jaune. »
Il y eut de nouveau dans la salle un grand remous. Le président lui demandait le silence pour que Rouletabille puisse continuer.
« La chambre jaune était close comme un coffre-fort, » poursuivit Rouletabille. « Depuis le moment où Mademoiselle Stangerson s'est enfermée dans sa chambre jusqu'au moment où l'on a défoncé la porte, il est impossible que l'assassin se soit échappé de cette chambre. Cela signifie qu'à ce moment-là, il n'était pas dans la chambre. L'assassin était donc venu avant. Mais comment Mademoiselle Stangerson n'avait-elle été assassinée qu'après ? Je réfléchis longuement à cette affaire. Et je compris qu'il me fallait naturellement la reconstituer en deux phases. La première pendant laquelle on avait réellement tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson, tentative dont elle n'avait parlé à personne. La seconde pendant laquelle, à la suite d'un cauchemar qu'elle avait eu, ceux qui étaient dans le laboratoire avaient cru qu'on l'assassinait. Quelles étaient les blessures de Mademoiselle Stangerson ? Des marques de strangulation et un coup formidable à la tempe. Les marques de strangulation ne me gênaient pas. Elles pouvaient avoir été faites avant, et Mademoiselle Stangerson les avait dissimulées sous un col, une écharpe, jusqu'au moment d'aller se coucher. Mais il y avait le coup formidable à la tempe. Ça, je ne le comprenais pas. Surtout quand j'appris que l'on avait trouvé dans la chambre un os de mouton, arme du crime. Elle ne pouvait avoir dissimulé qu'on l'avait assommée. Cependant, cette blessure devait avoir été faite pendant la première phase, puisqu'elle nécessitait la présence de l'assassin. J'imaginais que cette blessure était beaucoup moins forte qu'on ne le disait, en quoi j'avais tort. Et je pensais que Mademoiselle Stangerson l'avait cachée sous une coiffure en bandeau. Quant à la marque sur le mur, de la main de l'assassin blessé par le revolver de Mademoiselle Stangerson, cette marque avait été faite évidemment avant, et l'assassin avait été nécessairement blessé pendant la première phase. L'os de mouton, le béret, le mouchoir, le sang sur le mur, sur la porte et par terre, de toute évidence, si ces traces étaient encore là, c'est que Mademoiselle Stangerson, qui voulait que son père ne sache rien de ce qui s'était passé, n'avait pas encore eu le temps de les faire disparaître. Après, donc, cette première phase, elle n'est entrée dans sa chambre qu'à minuit. Maintenant, venons-en à la deuxième phase. Mademoiselle Stangerson, épuisée, se couche et s'endort. Soudain, du laboratoire, on entend un grand bruit de meubles renversés. J'imagine ceci. Mademoiselle Stangerson, troublée par ce qui s'est passé entre elle et l'assassin l'après-midi, rêve. Elle revoit l'homme qui se précipite sur elle, elle crie « À l'assassin, au secours !» Et d'un geste peu sûr, elle cherche le revolver qu'elle a posé, avant de se coucher, sur sa table de nuit. Mais sa main heurte la table de nuit avec une telle force qu'elle la renverse. Le revolver roule par terre, un coup part. Mademoiselle Stangerson, dans un état affreux, est réveillée. Elle essaye de se lever, elle roule par terre, sans force, renversant les meubles, gémissant même « À l'assassin, au secours !» et elle s'évanouit. Voilà comment les choses se sont passées dans la deuxième phase. Un seul point me manquait pour éclairer ce mystère. Il devenait évident que la blessure à la tempe s'était faite pendant la deuxième phase, et non pendant la première, comme je le croyais au début. Mais comment ?
Rouletabille tira alors de sa poche un papier blanc qu'il déplia délicatement. Il en sortit un objet invisible qu'il tint entre le pouce et l'index et qu'il porta au président.
« Ceci, monsieur le président, est un cheveu blond, taché de sang, un cheveu de Mademoiselle Stangerson. Je l'ai trouvé dans la chambre jaune, collé à l'un des coins de la table de nuit renversée. Ce coin était lui-même taché de sang. Les médecins avaient déclaré que Mademoiselle Stangerson avait été assommée avec un objet contondant, et comme l'os de mouton était là, le juge d'instruction l'avait immédiatement accusé. Mais en réalité, ce fut le coin de la table qui avait blessé si gravement Mademoiselle Stangerson. Il me restait à savoir, en dehors du nom de l'assassin que je devais connaître quelques jours plus tard, à quel moment avait eu lieu la première phase du drame. Elle s'est déroulée quand le professeur Stangerson est allé parler avec le jardinier. L'assassin est déjà caché dans la chambre jaune. Mademoiselle Stangerson arrive. Tout a dû être très rapide. Mademoiselle Stangerson a dû crier, ou plutôt a voulu crier. L'homme l'a saisie à la gorge. Mais la main de Mademoiselle Stangerson a pris, dans le tiroir de la table de nuit, le revolver qu'elle a caché depuis qu'elle sait que l'homme la poursuit. L'assassin brandit déjà sur sa tête cette arme terrible dans les mains de Larsan Ballmeyer, un os de mouton. Mais elle tire. Le coup part, blesse la main de l'assassin qui abandonne l'arme. L'os de mouton roule par terre. L'assassin chancelle, va s'appuyer au mur, y laisse la marque de ses doigts rouges, craint une autre balle et s'enfuit.
Rouletabille se tourna alors vers M. Darzac.
« Vous savez la vérité !» s'écria-t-il. « Dites-nous donc si la chose ne s'est pas passée ainsi !»«
Je ne sais rien !» répondit M. Darzac.
« Vous êtes un héros !»
fit Rouletabille en croisant les bras.
Mais si Mademoiselle Stangerson était hélas en état de savoir que vous êtes accusé, elle viendrait vous défendre elle-même.
Monsieur Darzac ne fit pas un mouvement, ne prononça pas un mot. Il regarda tristement Rouletabille. Le président s'écria alors
« Mais enfin, quel est ce mystère qui fait que Mademoiselle Stangerson, que l'on tente d'assassiner, dissimule un pareil crime à son père ?»
« Ça, monsieur, » fit Rouletabille, « je ne sais pas. Ça ne me regarde pas. »
Le lendemain, M. Robert Darzac était remis en liberté provisoire. On chercha vainement Frédéric Larsan. La preuve de l'innocence était faite. M. Darzac fut définitivement libre. Le soir du procès, Rouletabille et moi allâmes dîner dans un restaurant. « Mon ami, » lui dis-je, « cette affaire de Larsan est tout à fait extraordinaire et digne d'un cerveau comme le vôtre. Cependant, il me reste une question à vous poser. Comment avez-vous pensé que Larsan pouvait être l'assassin ?»«
Vous avez donc oublié l'histoire de la canne ?»
me répondit mon ami.
« Elle a toujours appartenu à Larsan. C'est lui qui l'a achetée en se faisant passer pour M. Darzac. » car il espérait bien le faire accuser du crime pour qu'il disparaisse à jamais de la vie de Mademoiselle Stangerson. Le plus étrange, c'est que c'est cette même canne qui l'a accusé, lui, Larsan. Il s'en servait pour cacher sa blessure à la main. J'avais enfin une preuve fondamentale. Le reste, je suis allé le trouver en Amérique. Je vous raconterai cela un autre jour.